Voici le temps de cette chronique où on rencontre quelqu'un qui a la tête dans la recherche pour le monde en situation de handicap. Donc avec nous, la doctorante en orthophonie, Carole Anglade, pour parler langage. Bonjour, Carole Anglade.
Bonjour, Benoît. Bonne Saint-Valentin.
Ben oui, ah, c'est heureux. Vous êtes la première qui me l'a souhaité. Ben, je suis content que vous soyez aussi notre Valentine de recherche. Vous vous intéressez aux interactions, il y a plusieurs choses, même l'amour, des personnes qui ont un trouble de langage suite à un AVC. C'est bien ça?
C'est ça, tout à fait. En fait, ça me fait une magnifique transition avec M. François juste avant, qui parlait du langage, puis ma population d'intérêt est complètement concernée par ses préoccupations. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, moi, je suis au doctorat en orthophonie à l'Université de Montréal, puis mon sujet d'intérêt de recherche, c'est la réinsertion sociale des personnes qui vivent avec un trouble de communication qu'on appelle aphasie.
Ah, l'aphasie, donc.
Oui, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont soudainement été privés de leur capacité à communiquer, partiellement ou totalement, en général suite à une lésion neurologique, comme par exemple un accident vasculaire cérébral ou, comme on dit, un AVC.
Donc, ces gens-là, vous avez eu envie de travailler pour comprendre comment ils s'exprimaient, ils interagissaient. Pourquoi?
Ça remonte à quelques... Maintenant, ça va faire plus d'une décennie.
Ah,
en fait, vers 20 ans, je me questionnais sur ma future vie professionnelle. Puis j'ai rencontré pour la première fois une personne qui vivait avec une aphasie sévère. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait me comprendre, mais avec qui j'avais l'impression que je ne pouvais absolument pas communiquer parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore les outils. Ça a vraiment été comme une révélation et je me suis alors dirigée vers l'orthophonie dans le but de me spécialiser auprès de cette population, d'abord en tant que clinicienne.
Ah! Donc, vous avez aidé des gens d'abord en première ligne.
Je
sais que c'est impossible, mais je vous amène quand même dans cette mission. C'est quoi la grande question que vous vous posez dans vos recherches?
La grande question que je me pose, c'est, ça répond à ce que j'ai pu observer dans mes 3 ans de pratique professionnelle en réadaptation, où vraiment je travaillais avec des gens qui se réveillaient un matin avec une aphasie, donc qui essayaient de reprendre le train de leur vie en marche. Puis j'ai vraiment constaté qu'ils avaient de la difficulté à reprendre des interactions avec les personnes inconnues de leur environnement. Puis alors, pourquoi les inconnus, vous me direz?
Ben oui, exact.
Ben oui, il y en a plein des gens. Pourquoi les inconnus? Parce qu'en fait, ils sont nombreux dans nos activités, dans nos cadres de vie, en fait, journaliers, à vous comme à moi. Il y a les commis dans les épiceries, les serveurs dans les restaurants, les guichetiers à la banque. Vous ne les connaissez pas et pourtant, vous leur parlez à tous les jours. Ils sont vraiment une composante inévitable d'une communication, si vous voulez, d'une participation sociale pleine et satisfaisante. Puis c'est vraiment difficile à retrouver pour les personnes ayant une aphasie.
Puis on s'en rend compte, là. Imaginez, quand vous connaissez bien quelqu'un, vous n'employez pas le même langage, vous n'avez pas besoin de répéter toutes les préambules qu'on fait quand on ne connaît pas quelqu'un. Mais imaginez en plus quand vous êtes aphasique.
Hein? C'est ça, c'est ça. Puis là, vous avez des gens qui ne comprennent pas forcément en face qu'est-ce qui vous arrive, puis qui ne comprennent pas que vous comprenez, parce que la plupart comprennent vraiment très, très bien. Et donc, c'est ça. Je m'intéresse vraiment aux interactions qui peuvent exister naturellement dans le quotidien pour les personnes qui ont une aphasie, puis qui sont quand même autonomes, parce que c'est cette autonomie qui est relevée dans la littérature comme étant un des facteurs qui permet de bien vivre avec l'aphasie, parce qu'il y a des gens qui vivent bien avec une aphasie. Puis donc, du coup, pendant ma collecte de données, j'ai suivi des personnes avec leur accord, des personnes ayant une aphasie dans leurs sorties puis leurs activités de tous les jours. Et quand c'était possible, j'ai enregistré, en fait, j'ai filmé les échanges qu'elles avaient avec des interlocuteurs non familiers et en plus de leur proposer des entrevues.
Donc, vous avez d'abord observé en situation réelle ce qui se passait, là.
Exactement. Puis là, ce que je suis en train de faire, c'est d'analyser les interactions qui ont eu lieu et je regarde comment elles se déroulent malgré le trouble de communication.
Okay.
Je regarde ce que font les personnes qui ont de l'aphasie puis ce que font leurs interlocuteurs pour réussir cette interaction puisque, en fait, ils m'ont tous dit qu'ils les avaient évaluées comme satisfaisantes. Donc, j'ai une trentaine d'interactions qui se passent bien malgré un trouble de communication puis je regarde un peu c'est quoi les notions clés ou les outils qu'ils ont mis à leur disposition.
OK, donc dans le fond, les tactiques que les gens peuvent avoir pour que ça se passe bien, parce que ce que vous avez constaté, c'est que ça se passe souvent bien, mais qu'est-ce qu'elles font ces personnes pour que ça se passe bien?
Eh bien, c'est ça. Moi, j'ai certains de mes participants qui m'ont complètement époustouflée. Il y en a qui ne pouvaient pas dire un seul mot, puis qui, par exemple, m'ont prouvé dans mes enregistrements qu'ils sont capables d'initier, de maintenir et de conclure une conversation en faisant des gestes, des onomatopées avec un communiqué qui leur était complètement inconnu, puis modifiant ainsi l'interaction qui était une simple transaction, hein, j'échange un produit contre de l'argent, et la faisant évoluer vers finalement un réel échange social en plus de remplir l'objectif de base.
Est-ce que est-ce qu'on s'amuse en le faisant? Parce que j'ai souvent vu ça comme tactique. Je côtoie des gens aphasiques, entre autres, puis ils essaient d'utiliser un peu la blague, des gestes pour dédramatiser à chaque fois. Est-ce que vous avez repéré ça souvent?
C'est pas le cas de tous, mais oui, il y en a qui vont l'utiliser. Il y en a qui, au contraire, vont chercher à éviter toute situation qui pourrait jouer un rôle de perturbateur dans la communication, donc ils vont s'en tenir plus à leur rôle de client versus la fonction en face du serveur. Mm-hmm. Mais en tout cas, oui, ils réussissent tous, par une façon ou une autre, de remplir leur objectif initial. Puis ce que moi, mon objectif, en fait, c'est de faire remonter un peu dans les services de réadaptation ces informations-là.
Ah, pour faire comprendre les gens qui interviennent un peu mieux cette interaction possible avec les gens qui ont l'aphasie, c'est ça?
Oui, et puis surtout pour l'encourager et la soutenir auprès des personnes qui sont encore à l'hôpital, comme les personnes avec qui j'ai travaillé avant de commencer mon doctorat, et puis qui, pour beaucoup, ont l'impression que leur vie s'est arrêtée, leur vie avec justement ces personnes non familières s'est arrêtée parce que...
Carole Anglade, vous me permettez de faire le lien de vos deux mondes. Vous avez intervenu, vous comprenez maintenant comment ça se passe. Écoutez, on continue de surveiller ce que vous allez découvrir. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir vos recherches ou ce que vous faites?
Oui, tout à fait. Il y a mon site, carole-anglade.com.
Bon, on y va alors. carole-anglade.com. C'est tout le temps qu'on avait. Je suis vraiment désolé.
Oh, c'est pas grave.
Mais on vous réinvite.
Volontiers. Voilà. Volontiers. Merci beaucoup.
Au plaisir. Merci.
Au revoir.